Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Toutes les impressions qu'on reçoit dans l'enfance, on les conserve jusque dans la vieillesse, disait déjà Euripide, né 5 siècles avant Jésus-Christ. Si l'enfant garde ses impressions de l'enfance jusque dans la vieillesse, alors autant que ces impressions soient positives et heureuses. Nombreux sont les enfants qui ont été bercés par les contes de Grimm ou de Perrault, ces contes dans lesquels on peut clairement distinguer le bien du mal, les dangers que l'on peut courir, les personnes qu'on doit éviter, les peurs que l'on peut éprouver. Ces contes aident à entrer dans le monde. Claire Bourriou a choisi de prendre des situations fréquentes qui peuvent perturber l'enfant, voire l'angoisser, comme un déménagement, le nouveau port de lunettes ou une intervention chirurgicale ou médicale, et d'en faire une histoire qui met en scène un petit nuage, une dragonne ou un hérisson. Et voici des contes très modernes, mais qui vont dans le même sens, je suppose. Son ouvrage s'intitule « Contes pour grandir », illustré par Delphine Balm et édité chez First Edition. Et elle vient tout nous expliquer à notre micro. Claire Bourriou, bonjour.
Bonjour.
Alors, je n'ai pas dit de bêtises, là.
Non, tout à fait. Vous avez très bien dit tout ce qu'il fallait.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à des contes pour enfants ?
Alors, les contes pour enfants, ça, c'est venu lorsque j'ai été moi-même confrontée à des situations difficiles avec mes enfants. C'était en 2012. Moi, je venais de terminer mon diplôme universitaire d'hypnose médicale. Et mon fils devait entrer à l'école 15 jours avant. Il n'était pas propre. Et là, ça a été le drame pour papa et maman, donc nous-mêmes, puisqu'on pensait que notre enfant allait être refusé à l'école à cause de cette difficulté d'être propre. Donc, m'est venue une histoire et j'ai imaginé un petit nuage pour lui venir en aide et lui, surtout qu'il puisse trouver en lui une ressource qui lui permette de solutionner cette difficulté à être propre.
Voilà. Et donc, c'est vraiment du vécu.
C'est du vécu.
Ça se sent. C'est très... Et la construction de votre ouvrage aussi est très intéressante. Donc, il y a votre expérience de mère. Et pas de meilleure expérience, finalement, parce qu'on a des idées au départ. Et puis, on se rend compte, ça ne marche pas toujours comme on le souhaite. Il y a également vos activités professionnelles.
Tout à fait. Ce livre, c'est vraiment l'expérience de maman et puis d'hypnothérapeute, puisque je suis aussi hypnothérapeute. Et je reçois bien évidemment des enfants, des adolescents, des adultes dans leurs différentes problématiques. Et avec les enfants, le conte, les histoires thérapeutiques permettent vraiment de trouver des solutions, de les faire parler d'eux-mêmes, de libérer leurs paroles et leurs émotions, tout simplement juste en s'identifiant au héros de l'histoire. Et ça permet de le conte a ce pouvoir, ce merveilleux pouvoir d'ouvrir les portes de l'imaginaire de l'enfant et de lui permettre de se connecter à toutes ses ressources intérieures pour qu'il puisse les déployer ensuite dans la vie réelle, de façon consciente.
D'accord.
Et c'est ça qui est magique.
Oui. Donc, vous aviez quand même, en plus de vos enfants, un panel, j'ose dire, d'autres enfants.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
D'accord. Alors, la question que je me pose... Intervenir pourquoi, diront certains. Est-ce que certains croient que les choses peuvent se régler toutes seules?
Oui, c'est ça. Effectivement, on croit souvent en tant que parent que les choses peuvent se résoudre toutes seules. Alors bien sûr que ça peut arriver. Mais quand les difficultés d'un enfant persistent, il est bon de trouver des solutions par nous-mêmes. Et les parents, je crois, ont toutes les ressources nécessaires pour trouver des solutions. Parce que ce sont les personnes qui sont les plus à même d'être à l'écoute, de répondre aux besoins de leur enfant. Ils les connaissent, ils connaissent leurs goûts, ils connaissent leurs particularités. Et c'est toujours bon d'essayer quelque chose, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bien sûr, là, il faudra consulter, il faudra aller voir des professionnels de santé. Mais l'histoire thérapeutique, c'est quelque chose d'accessible à tout parent, à tout adulte, et ça permet de partager un bon moment ensemble avec son enfant, et surtout de pouvoir peut-être l'aider à résoudre ses problèmes.
Oui. Alors, si j'ai bien compris, en lisant votre ouvrage bien attentivement, lui-même ne sait pas identifier l'origine de son malaise ou de ses maux.
Oui, jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants ont des difficultés à poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, l'adulte va pouvoir accompagner l'enfant, il va être alerté par un changement de comportement, et c'est ce changement de comportement qui va permettre à l'adulte de se dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon enfant, et je vais peut-être pouvoir l'aider en trouvant une solution ». Les comportements qu'on peut trouver, c'est souvent des comportements de colère, de cri, d'agressivité, des enfants qui changent du tout au tout, du jour au lendemain.
Oui, parce qu'il n'a pas forcément les mots.
Exactement, il n'a pas les mots. Avant 6 ans, il a du mal à discerner le bien du mal, à discerner ce qui se passe en lui, parce que les émotions, c'est quand même très compliqué à reconnaître, et même déjà en tant qu'adulte, c'est pas forcément évident. Donc avant 6 ans, l'enfant a du mal à dire ce qui se passe dans sa tête, dans son corps. Il ressent des choses, mais il ne sait pas exactement les exprimer. Et l'histoire va permettre en fait de guider l'enfant et de lui permettre de parler de lui, de libérer sa parole et de finalement trouver quelles sont les émotions qu'il a en lui et qu'est-ce qui a fait que, du jour au lendemain, son comportement a changé.
Oui, là, on souhaite qu'il retrouve sérénité, confiance en lui, estime de lui-même aussi, évidemment. Alors, la question que je pourrais vous poser aussi, à quel moment précisément faut-il intervenir ?
Il faut intervenir, alors, quand vraiment l'adulte sent que les choses ne bougent pas, que les difficultés s'installent durablement et que finalement, on voit que l'enfant est de plus en plus triste, de plus en plus en colère, de plus en plus introverti, peut-être. Il peut y avoir aussi un silence qui s'installe, un isolement. Et quand ça dure trop, là, il faut effectivement intervenir. Et si l'adulte n'arrive pas à trouver des solutions qu'il a dans sa caisse à outils, là, il faut s'inquiéter, aller consulter un médecin, aller consulter un psychologue quand vraiment ça devient problématique. Voilà. Oui. Et quand il y a des symptômes aussi qui sont plus graves. Là, je parle des maux de ventre dans ce livre, mais c'est vrai que quand il y a des maux de ventre, des vomissements, il ne faut pas non plus que ça tarde de trop. Voilà.
Oui, j'ai entendu dire que même certains enfants perdaient leurs cheveux.
Exactement, tout à fait. Oui. Tout à fait.
Oui, oui.
Oui, oui.
Alors, pourquoi un conte passe-t-il mieux qu'une petite explication avec la maman ou avec le papa ?
Alors, quand on explique, on est dans le conscient. Donc, on est vraiment dans des choses très théoriques. L'enfant a du mal à comprendre les choses qui sont un peu en conscience. Et finalement, l'histoire, on va accéder à l'imaginaire de l'enfant, à l'inconscient. Et l'histoire thérapeutique va permettre un dialogue entre le cerveau droit de l'adulte et de l'enfant. Le cerveau droit, c'est le siège de l'inconscient, le siège de l'imaginaire. Et notre cerveau gauche, voilà, si on schématise un peu comme ça, le cerveau gauche, c'est le siège du conscient, de tout ce qui va être théorique, logique, rationnel. Et en fait, l'histoire thérapeutique va créer une passerelle, un pont entre le cerveau gauche et le cerveau droit, donc entre notre inconscient et notre conscient, pour finalement permettre à l'enfant de s'identifier au héros de l'histoire, d'être complètement imprégné par cette histoire et du coup de trouver en lui toutes ces ressources qui vont lui permettre de déployer toutes ses compétences, tous ses talents pour résoudre dans son quotidien ses problématiques.
Alors je vous pose une question qui m'est tout à fait personnelle. Je suis gauchère et pour les gauchers, c'est exactement la même chose ?
Exactement pareil, tout à fait. Oui, oui, oui.
D'accord. Est-ce que, dans la forme, est-ce qu'une métaphore est moins traumatisante qu'une, justement, une phrase, j'allais dire, à l'état brut, peut-être pas. La métaphore, ça permet quoi ?
La métaphore, ça ouvre la porte de l'imaginaire, justement, parce que l'inconscient de l'enfant ou d'un adulte va pouvoir accéder à différents degrés de compréhension de cette métaphore. Quelque chose que l'on va, une phrase que l'on va consciemment et de façon brute expliquer, on va l'entendre à un certain niveau. Alors que l'inconscient, quand il y a une métaphore, on peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs champs d'ouverture. Et c'est ça qui va permettre finalement que le message va être compris par l'enfant à sa manière, à sa façon, et pas forcément à la façon de l'adulte. C'est ça qui est surprenant.
Est-ce qu'on peut vérifier, ou de quelle manière, oui, dans sa façon d'être, de mieux être, est-ce qu'on peut vérifier que finalement le message est bien passé ?
Quand on raconte l'histoire, quand on...
Oui.
Oui. Alors ça, on va comprendre quand le message est bien passé, justement par les mimiques, par les interactions verbales et non-verbales qui va se créer entre l'adulte et l'enfant. Quand l'adulte va accompagner avec l'histoire la problématique de l'enfant, on va s'apercevoir dans cette interaction entre l'enfant et l'adulte si l'enfant y perçoit un détail, une notion particulière. Et ça, ça va se percevoir dans son regard, dans ses mimiques, dans ce qu'il va pouvoir aussi exprimer, parce qu'il a le droit aussi pendant l'histoire de parler, d'exprimer aussi des choses voilà, qui sont plus intérieures, qui sont plus à l'intérieur de lui. Et du coup, c'est ça qui va permettre d'accompagner très facilement l'enfant dans sa démarche et de trouver une solution.
Alors, vous dites attention, vous dites très sagement, je dirais, pas de recette magique.
Non.
Et ça m'a évoqué Françoise Dolto. Bon, elle est intouchable, mais quand même, parfois, on avait l'impression que c'était de la magie.
Et oui, oui, oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de recette magique parce que ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner. Mais ce qui est magique, c'est finalement ce lien, cette interaction qui va se faire entre l'enfant et l'adulte. C'est ça qui est magique. Un adulte, un parent qui va être bienveillant, qui va être attentionné, qui va être à l'écoute de son enfant, c'est ce qui va permettre à l'enfant de se dire bah, « Tiens, là, je suis reconnue dans mon problème. Mon parent a compris que je n'allais pas bien. » Et finalement, c'est dans cet échange qu'ils vont pouvoir trouver une solution de concert ensemble.
Oui.
Et c'est ça qui est magique.
Bien sûr. Vous dites d'ailleurs, ce livre, le recueil de contes que j'ai imaginé pour venir en aide à mes enfants lors des différentes étapes de leur développement à partir de 3 ans. Ce sont eux qui m'ont ensuite encouragée par leur enthousiasme et leur collaboration à réécrire leurs histoires pour d'autres familles qui pourraient vivre des situations similaires, car ces difficultés sont universelles. Je me suis posé la question, et est-ce qu'on ne peut pas leur demander à eux de raconter une histoire ?
Oui, tout à fait. On peut tout à fait demander aux enfants de raconter une histoire. Et ça se fait plus vers après 6 ans. Il faut que l'enfant, il comprenne la façon de créer une histoire. Alors ça peut se faire, moi je le fais en tant qu'hypnothérapeute avec des enfants, avec des cartes où je leur demande un lieu, un héros, un animal soutien, pour qu'ils puissent se construire finalement leur histoire à eux. C'est eux qui vont la créer. Et ça, c'est magique, parce qu'effectivement, les enfants ont un imaginaire débordant.
Bien sûr,
et
bien
c'est
sûr.
Très facile, mais avant 6 ans, c'est compliqué pour eux d'arriver à créer cette histoire tout seul.
Oui.
C'est quoi la musique ?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion ?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment ?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie ?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance ?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps ?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme ?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance ?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir ?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel ?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir ?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance ?
De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords ?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine ?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel ?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir ?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire ?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie ?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence ?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme ?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié ?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière ?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse ?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur ?
C'est maintenant ou jamais. C'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là, la vie est là.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Alors, dans la préface de votre livre, on va parler aussi de la construction de votre livre. Dans la préface de votre livre, vous parlez d'hypnose. J'étais intriguée, voire inquiète même, parce que l'hypnose pour les enfants, c'est-à-dire, racontez-moi l'hypnose. Alors, on en parle beaucoup en ce moment.
On parle beaucoup de l'hypnose, effectivement, ça s'est développé depuis une bonne dizaine d'années, enfin en tout cas ça s'est démocratisé, et tant mieux d'ailleurs, mais l'hypnose ça fait toujours peur parce qu'on pense qu'on va manipuler.
Une perte de soi.
Exactement, qu'on va contrôler l'autre, qu'on va être dans la manipulation.
Oui, exactement.
Et en fait, pas du tout. L'hypnose thérapeutique que les thérapeutes utilisent, c'est une hypnose finalement qui va permettre de s'appuyer sur quelque chose que l'on fait déjà au quotidien. Tout le monde fait de l'hypnose au quotidien sans s'en apercevoir. C'est vraiment cet état d'hypnose, c'est être à la fois là physiquement et ailleurs par la pensée. Et tout le monde le vit dans le quotidien. Quand on conduit et qu'on s'aperçoit qu'au bout de 10 minutes de trajet, on ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé juste avant, sur les 10 minutes écoulées, c'est parce que vous étiez vraiment concentré sur la route, vous étiez bien là, mais votre esprit a été mobilisé par d'autres choses.
Oui, vous dites le mot hypervigilance.
Hypervigilance, oui, l'hypnose, c'est, effectivement, c'est pas du tout une manipulation, c'est un état d'hypervigilance, d'éveil, parce que finalement, on est focalisé sur quelque chose, sur une activité, sur une action, et on va faire complètement abstraction de tout l'environnement qui se trouve autour de nous.
Et c'est vrai que la plupart du temps, mais vous donnerez des conseils, vous en parlez, on en parlera à quel moment, comment contribuer à installer un univers favorable, mais quand on lit un conte à un enfant, il est hyper vigilant.
Tout à fait, il est en hyper vigilance, il est complètement focalisé par l'histoire.
Et si vous vous trompez d'un mot, il rectifie.
Ah, complètement, dès qu'ils connaissent l'histoire, il ne faut pas se tromper, effectivement.
Donc, il a, si j'ai bien compris, il a une compréhension inconsciente finalement.
Oui, oui, oui. L'histoire, il va la comprendre vraiment à son niveau, à son niveau d'inconscient, oui, tout à fait.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'identification au personnage de l'histoire ?
Oui, l'histoire va permettre en fait à l'enfant de s'identifier au héros, d'être complètement plongé dans sa problématique. Et finalement, c'est ce qui va être magique, c'est que la métaphore que l'adulte va conter, la métaphore est en parfaite résonance avec l'imaginaire et la problématique de l'enfant, ce qui va lui permettre à l'enfant de complètement s'identifier à ce personnage. Mais il y a aussi, alors en plus de l'histoire, dans ce livre, il y a également les illustrations qui sont importantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant.
De fort jolies illustrations. Alors, je rappelle qu'il s'agit de Delphine Balm, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, oui. Merci de la citer. Delphine Balm a fait un travail formidable et en fait, je lui ai demandé de réaliser les illustrations sans illustrer le héros. Et ça, c'était vraiment volontaire. Il fallait simplement qu'elle illustre l'environnement, le lieu et l'animal qui venait en soutien du héros pour que justement, l'illustration permet aussi à l'enfant de s'identifier au héros inconsciemment.
Oui, 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 oui. Alors, vous avez construit votre ouvrage. C'est le premier ouvrage ?
C'est le premier, oui, oui, c'est le premier
bravo,
ouvrage.
Bravo, bravo.
Merci.
Non, il est très intéressant pour les enfants, pour les parents, même les grands-parents, je dirais.
Tout
donc,
à fait.
Dont je suis. Alors, vous l'avez construit, il y a plusieurs... Alors, il y a une préface où vous expliquez fort bien, d'ailleurs. Ensuite, alors, comment avez-vous voulu procéder?
Alors, je voulais un livre qui soit accessible, facile de compréhension pour les parents. Et je voulais donner le maximum d'informations, le maximum de détails aux parents pour expliquer finalement comment lire les histoires. Alors, la première partie, c'est toute une partie un peu théorique pour pouvoir expliquer l'hypnose, la métaphore et comment agit finalement l'histoire thérapeutique dans l'inconscient de l'enfant. Et ensuite, vous allez trouver les contes. Et chaque conte est toujours précédé d'une explication. Pourquoi,
pourquoi vous avez pensé à écrire
exactement,
ce conte ?
Voilà, pourquoi ce conte ? Avec quelle problématique ? Puis ensuite vient le conte. Et derrière, vous avez les effets immédiats ou un petit peu différés
que
j'ai observés. Oui, tout à fait.
Les parents d'autres enfants.
Oui,
d'accord. Voilà. On parlera de la fin également, que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'aimerais que, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez page 12, afin d'accompagner au mieux votre enfant dans la lecture de ses contes, je vous suggère de créer un environnement propice et vous donner plusieurs conseils qui sont à suivre, je pense, j'en suis persuadée.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, déjà, il faut préférer un moment où l'enfant est suffisamment réceptif pour écouter l'histoire, pour écouter l'adulte, dans un endroit calme, si possible. Ensuite, il faut pouvoir lui expliquer...
Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il ait faim à ce moment-là, qu'il ait une émission de télé qui l'intéresse particulièrement.
Tout à fait, voilà, qu'il soit reposé aussi,
oui,
qu'il,
voilà.
Qu'il soit attentif, en tout cas, à l'histoire. Ensuite, expliquez-lui que vous connaissez actuellement un animal qui a un problème ou une difficulté sans en dire plus. Cela permet à l'imaginaire de l'enfant de se mettre au travail et de créer ses propres liens.
Alors, quand vous parlez d'animaux, vous avez choisi des animaux, ces animaux-là, en fonction de quoi ?
Alors, en fonction...
De leur popularité.
Alors, pas forcément de leur popularité, c'était plus en lien avec les goûts de mes enfants et puis de mon petit patient, puisqu'il y a beaucoup... Alors, effectivement,
oui, il y a
beaucoup...
une dragonne quand même. Hein.
Alors, il y a une dragonne, oui, effectivement, cette dragonne. Je ne sais pas pourquoi elle est venue comme ça, mais parce que, voilà, j'avais cette dragonne, c'était en lien avec des maux de ventre et puis des reflux. Et finalement, j'ai de suite pensé à cette dragonne qui crachait du feu. Voilà, c'était vraiment une association d'un animal en lien avec la problématique de l'enfant, tout simplement.
D'accord. Alors, ensuite...
Au besoin, réalisez quelques exercices de respiration pour instaurer le calme. Bénéfique aussi bien pour vous que pour votre enfant. Et bien évidemment, il faut que ce soit des exercices très simples, voilà, que les parents déjà connaissent. Simplement de poser la main sur le ventre et respirer calmement. Des choses vraiment basiques, sans chercher des choses trop compliquées.
Peut-être que ça pourrait se faire dans les écoles.
Tout à fait. Et certains enseignants même trouvent des solutions. Il y a des enseignants qui sont très sensibles à tout ce qui va être méditation, à des... Et ça, c'est à la respiration aussi. Donc, oui.
D'accord. Vous n'avez pas eu l'occasion de faire passer votre livre dans les écoles ?
Pas encore, pas encore. Mais oui, 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 j'y pense.
Oui.
Effectivement, ça pourrait aider bon nombre d'enfants.
Tout à fait.
Laissez-le bouger s'il en ressent le besoin. Pour apprendre et intégrer de nouvelles informations, certains enfants ont besoin du mouvement. Cela signifie que l'enfant a une sensibilité kinesthésique qui n'est pas à négliger dans ses apprentissages futurs.
Alors, quand on les voit faire le poirier sur le canapé pendant que vous lisez une histoire, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Son inconscient va tout à fait entendre ce qu'il faut entendre pour l'enfant. Donc,
oui,
on peut le laisser.
Il y a des enfants plus agités que d'autres.
Effectivement, il y a des enfants plus agités que d'autres. Et malheureusement, on ne pourra pas toujours avoir des enfants très calmes. Mais même s'ils bougent, ils ont quand même, ces enfants-là, ils ont une facilité aussi de mémorisation, de concentration qui est différente des enfants plus calmes. Donc, il faut pouvoir l'accepter et puis se dire que l'inconscient, de toute façon, fait toujours son travail comme il faut. Parlez toujours au présent de l'indicatif, afin que votre enfant puisse s'identifier et se projeter dans votre récit. Donc ça, effectivement, le présent, ça va permettre de focaliser vraiment l'enfant dans l'histoire.
Ah oui. Et alors, vous pouvez me dire un mot, justement, des contes d'autrefois. Les contes de Perrault, c'était dans le passé, non ?
Effectivement, c'était dans le passé. L'imparfait était souvent utilisé, le passé simple aussi.
Il y a moins d'identification.
Alors, il y a moins d'identification. Je pense que les enfants aussi, dans nos contes, on pouvait aussi s'identifier effectivement aux héros. Mais le présent de l'indicatif permet vraiment de faire comme si on y était. Comme si, voilà, l'enfant, là, il était ici et maintenant avec le héros dans son histoire. Mmh. Et ça plonge vraiment l'enfant dans la problématique et dans la résolution de la solution quand on est dans le présent.
Oui, parce que finalement, je reviens sur les contes de Perrault, les contes de Grimm, dans le fond, ce n'était pas des problématiques bien précises. C'était dans les relations parents-enfants, oui. Ou dans la société, et puis le bien et le mal. Là, c'est encore différent. C'est plus thérapeutique.
Plus thérapeutique, mais les contes de Grimm et de Perrault sont quand même aussi, on peut les considérer comme des contes thérapeutiques, puisqu'il y avait derrière quand même un message. Quand on lit Podane, par exemple,
Ceci dit, quand on découvre, quand c'est expliqué aux adultes ce que ça cache, ça ne paraît pas évident.
Bien sûr.
J'ai attendu fort longtemps avant de comprendre.
Ça, c'est vrai. Donc, effectivement, le message peut être un peu compliqué pour les enfants, mais malgré tout, derrière chaque histoire, l'enfant va vraiment décoder le message qui est derrière. Et c'est ça qui est fabuleux dans le conte, c'est qu'il y a toujours un message et chacun va pouvoir l'entendre à sa manière, à sa façon.
D'accord.
Enfin, la clé du succès est que vous soyez pleinement présent et que vous fassiez toujours de votre mieux pour que ce moment de partage avec votre enfant soit un moment unique, privilégié et bénéfique, un vrai moment de plaisir.
Ah, voilà. Trouver le temps d'être avec votre enfant. Oui. Ça, c'est important.
Oui, surtout dans nos vies actuelles qui sont très rythmées, de trouver un temps. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'y passer une demi-heure ou une heure, de lire une histoire. Oui. Ça peut prendre 5-10 minutes. Oui. Mais c'est vraiment ce temps-là, finalement, ce que je dis toujours, c'est que les relations parents-enfants, ce n'est pas la quantité qui va être importante, c'est la qualité.
Et c'est vrai que vos contes ne sont pas très longs.
Non.
On en lira, sans doute. Et ça, c'est un avantage, parce que parfois, on s'embarque et au moment où on veut éteindre la lumière, par exemple, maintenant il y a la suite du conte. C'est vrai que ça peut poser problème.
Tout à fait. Là, c'est très court et c'est très, très précis.
Et ça correspond peut-être aussi à l'attention de nos enfants. C'est une parenthèse que je fais. Oui. On constate quand même une moindre attention, une capacité d'attention chez les enfants.
Et puis surtout, avant 6 ans, la capacité de concentration de l'enfant est plus courte. Donc automatiquement, c'est vrai que si on peut choisir des histoires courtes, c'est plus facile effectivement pour que l'enfant soit attentif à ce moment-là.
Bien sûr.
Surtout, gardez à l'esprit que les effets du conte peuvent être immédiats ou différés dans le temps. Soyez patient et rassuré, la métaphore fera son chemin dans l'inconscient de votre enfant à son rythme. Il ne faut ni expliquer la métaphore à votre enfant, ni revenir sur l'histoire avec lui. Son inconscient, appelé aussi la partie qui sait tout de lui, enregistrera uniquement tout ce qui est bon et utile pour lui. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce que les effets, vous allez pouvoir les constater vraiment quand l'enfant sera prêt, quand l'inconscient de l'enfant est prêt. Et finalement, tout va se faire à son rythme. Donc, il faut juste être patient.
Oui, parce qu'il n'y a aucun indicateur, aucun clignotant pour nous dire « Ah ben ça, c'est passé, ça non. » Effectivement, voilà. Et bon, il faut faire confiance aussi en la bonne nature de nos enfants.
Exactement.
Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, Claire, nous allons faire une pause musicale et nous reprenons ensuite.
Dim the light, little man, and tonight, little man, on a ship of dreams you'll sail. Dreams are made for children, and a dream is a fairy tale. You don't need a magic wand to see all that lies beyond. If you just believe in fairyland, fairyland appears. Dream away, little man, dream as Don't grow up, I beg of you. Dreams are made for children, and for children, dreams come true.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Claire Bourouillou, qui est venue nous parler d'un ouvrage très intéressant et pour les parents, et bien entendu pour les enfants à qui cet ouvrage s'adresse, du moins les contes qu'ils contiennent. Il s'agit d'un ouvrage qui s'intitule « Contes pour grandir » aux éditions First Edition. Et j'ajoute que je l'ai dit hors antenne à Claire Bourouillou, j'ai beaucoup aimé ce format de livre, les couleurs choisies et les dessins qui sont de Delphine Balm, et ce sont de très beaux dessins. Et vous m'avez dit, toujours hors antenne, que ces dessins ne montrez pas les animaux dont vous parlez dans ces contes. Pourquoi ?
Alors, ne montre pas le héros. Les animaux,
le héros, voilà, pardon. Voilà. Oui.
Il y a l'animal soutien. Le héros, effectivement, n'est pas illustré pour que, justement, l'enfant puisse s'identifier au héros, justement, de l'histoire et que ça puisse aussi développer son canal sensoriel visuel. Ce livre a été conçu, finalement, pour développer deux canaux sensoriels qui sont les plus développés généralement chez tout être humain, c'est le canal visuel, le canal auditif. Donc l'audition, bien sûr, pour le côté conte, et puis l'illustration pour le canal visuel. Voilà.
Oui. Qu'est-ce qui marche le mieux pour les enfants, d'entendre l'histoire ou de la voir Peut-être que c'est différent suivant les enfants.
Effectivement, ça peut parler pour un enfant qui est plus visuel, l'illustration, et plus le côté auditif pour un enfant qui est justement qui a besoin d'entendre. Donc ça peut être aussi les deux. Il y a des enfants aussi qui aiment entendre l'histoire et en même temps aussi observer les dessins qui sont dans ce livre. Okay. Donc il y a eu ce parti pris effectivement d'utiliser deux canaux justement pour que ça puisse bien parler à l'enfant et que ça voilà, que ce soit plus facile pour lui pour s'identifier au héros.
Et peut-être qu'un jour vous pourrez y adjoindre un CD.
Tout à fait, c'est tout à fait possible, oui, effectivement.
Voilà. Alors vous dites, on disait que ces contes étaient liés chacun à une problématique particulière. Il y a par exemple réussir le passage à la propreté, et oui, c'est un élément important dans la vie d'un petit. Retrouver le sommeil quand quelque chose fait que celui-ci est perturbé, accepter la séparation ou la maladie d'un proche. Est-ce que vous avez déjà en tête de nouvelles problématiques?
Alors, des problématiques, il y en a mille et une, hein, elles sont toutes universelles, bien évidemment. Il y a la perte d'un être cher, il y a la mort, ça, les enfants, ils sont confrontés, donc voilà. Mais c'est vrai que l'aspiration...
La séparation des parents.
La séparation des parents, bien sûr. Tout ce qui va être problématique peut être source de création d'un conte, et ça, effectivement, ça vient en fonction de la problématique et en fonction de la situation que l'on vit en tant que parent, bien sûr.
Donc, Vous n'en avez pas fini avec l'écriture.
Oh que non.
Alors, vous vous adressez aux parents en faisant appel souvent donc à votre propre expérience avec vos propres enfants. Ça leur a plu, là, vos enfants? Ils le savent?
Ah, bien sûr qu'ils le savent. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais écrit ce livre sans leur accord et sans... Parce qu'en plus, je mentionne leur prénom et ça, ça a été...
Oui.
Voilà, on en a discuté ensemble. Il y a eu un conseil familial.
Ils étaient très fiers, peut-être, non?
Ils étaient contents. Ils étaient... En plus, c'était vraiment une demande de leur part que j'écrive ce livre parce qu'ils m'ont dit, mais maman, tu sais, il y a d'autres enfants chez nous, à l'école, qui vivent aussi des choses difficiles, peut-être que ça pourrait les aider.
Ah.
Et pourquoi tu pourrais peut-être écrire un livre pour... voilà, donc en fait,
je
l'idée, elle est venue de...
un de vos livres à leur institutrice.
Oui, 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 pourquoi pas.
Oui. Alors, l'écriture des contes, donc, ça démarre d'une idée, évidemment, de quelque chose que vous avez constaté chez vos enfants ou chez des enfants que vous suivez. Après l'histoire, comment la construisez-vous, l'histoire?
Alors, l'histoire, elle se construit, il y a toujours une trame hein, qui est un petit peu qui est assez lisible d'une histoire à l'autre, et justement donc chaque parent peut s'appuyer sur les histoires pour retrouver cette trame et après pouvoir créer aussi pourquoi pas leurs propres histoires en fonction de ce qu'ils ont compris de cette trame. Alors cette trame, c'est toujours il faut toujours qu'on trouve le problème, bien évidemment la problématique de l'enfant, une question aussi qui va ouvrir à discussion, qui va permettre un échange avec l'enfant par rapport justement à la problématique du héros. On va retrouver le lieu, on va retrouver le héros, on va retrouver un animal qui va venir soutenir, accompagner le héros de l'histoire, et puis ensuite on va avoir un objet magique ou une stratégie d'adaptation qui va permettre à l'enfant de trouver ses propres ressources et sa propre solution finalement dans la réalité.
Alors, pour illustrer vos propos, moi je vous propose de nous lire un de vos contes. Alors, on a choisi évidemment le plus court. Ils ne sont pas très longs, et ça, moi je vous en remercie, parce que parfois, en fin de journée, même pour les mères de famille, parfois c'est un peu long et fastidieux, j'oserais dire. Alors, il s'agit de Cachou l'ours.
Alors, Cachou l'ours, je l'ai imaginé pour mon enfant qui devait réaliser une prise de sang. Et on sait que tout soin chez un enfant, c'est toujours source de peur et d'inquiétude, et aussi pour les parents. Donc, voilà, Cachou l'ours,
c'est... Et l'inquiétude des parents...
Se transmet
à l'enfant.
L'enfant va observer que le parent est inquiet, donc lui va forcément être inquiet. Donc, Cachou l'ours, dans une clairière... Au beau milieu de la forêt vit l'ours Cachou. Il mène une vie paisible dans la jolie maison qu'il s'est construite au creux d'un arbre centenaire. Tout autour, une pelouse où poussent des fleurs, toutes plus belles les unes que les autres, aux multiples senteurs et aux multiples couleurs. Toutes celles que tu aimes, un arc-en-ciel de couleurs. Cachou vit là, dans ce somptueux décor, tout seul. Tout seul? Pas tout à fait. Et tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Comme tous les ours, Cachou aime le miel. Il est d'ailleurs très doué pour récolter le sien, un miel aux notes parfumées de la forêt et de toutes ses jolies fleurs. As-tu envie de connaître le secret du bon miel de Cachou l'ours? Installe-toi bien confortablement, je vais te raconter l'histoire de notre ami. Aujourd'hui, et comme tous les matins, Cachou se réveille de bonne humeur. Il boit un grand bol de lait et mange de belles tranches de pain tartinées de son bon miel, puis enfile ses habits et sort dans le jardin. Une fois dehors, Cachou contemple tout ce qui l'entoure et s'émerveille. Tous ses sens sont en éveil. Ses yeux observent les rayons du soleil qui se faufilent entre les nuages et éclairent d'une douce lueur son jardin merveilleux. Ses oreilles entendent la symphonie des ailes de ses amis les abeilles, qui le bercent d'une douce mélodie. Mais voilà qu'un bourdon, voulant jouer à cache-cache avec elles, perturbe leur vol de fleur en fleur. Leur harmonieuse danse en huit se transforme en une joyeuse cacophonie. Cachou s'en amuse quand, tout à coup, sans qu'elle le fasse exprès, se pose sur son bras une abeille toute perdue et désorientée. Oh ! Elle a pris Cachou pour une fleur. Immobile et surpris, Voilà notre ours qui pique un incroyable fou rire. Il prend délicatement l'abeille avec sa patte et se dirige vers les ruches pour la raccompagner chez elle. Le bourdon, quant à lui, s'en est allé. Cachou en profite pour sentir le bon miel aux notes fleuries de ses amis les abeilles et pour goûter tous ses arômes sucrés. Les narines et les papilles pleines de tous ces parfums, notre ours remplit un pot de miel pour son prochain petit déjeuner. Un plaisir matinal dont ne se lasse jamais Cachou. Le miel est tellement liquide qu'il tapisse en un clin d'œil tout le pot. Une fois son tour de jardin terminé, Cachou va désinfecter son bras, applique un coton, appuie fort dessus et continue ses autres activités de la journée, toujours avec entrain et bonheur, dans sa jolie maison, au creux d'un arbre centenaire, au beau milieu de la forêt. Et chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras retrouver Cachou l'ours au même endroit, pour qu'il t'emmène avec lui vivre ses folles aventures.
Voilà, voilà. En effet, Cachou s'est remis de sa piqûre, donc que l'enfant puisse s'identifier à ce sympathique ourson. Oui, alors, vous notez aussi que de prendre du temps avec l'enfant, et Dieu sait que souvent les mères de famille actuellement travaillent pour la plupart, mais elles n'ont pas toujours le temps. Bon, et lui avoir raconté une histoire qui répond justement à sa problématique, lui montre que son problème n'a pas laissé les parents, parce qu'il y a le père aussi, indifférent, et qu'il peut compter sur eux.
Tout à fait. Et ça va permettre finalement de créer un lien de confiance entre le parent et l'enfant. Et l'enfant va finalement comprendre que dès qu'il va avoir un problème, il va pouvoir aller en parler à son parent parce que maintenant, il a compris que ses parents pouvaient l'accompagner, pouvaient l'aider et pouvaient l'entendre surtout.
Voilà. Alors, après le compte, vous indiquez donc les résultats que l'on peut observer avec toutefois une remarque. Je vous cite, ne vous découragez pas si sur votre route, vous croisez des personnes qui ne sont pas réceptives au moment où elles interviennent auprès de votre enfant. Cela vous rappellera qu'il faut se montrer encore plus persuasif et créatif. C'est du vécu.
C'est du vécu, oui, effectivement.
Enfin, vous terminez par un chapitre génial intitulé « L'atelier des parents créatifs ». Alors, racontez-moi ça.
Alors, l'atelier créatif des parents, c'est en fait...
Oui, c'est l'atelier, oui. Moi j'ai inversé. L'atelier créatif des parents.
Tout
oui,
à fait.
Ça.
Alors, l'atelier créatif des parents, c'est en fait des clés pour construire le propre conte des parents à leur enfant, pour ceux qui ont envie, finalement, que leur histoire colle au plus près de la problématique et de l'imaginaire de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que finalement, l'histoire que le parent va raconter, va pouvoir créer, ça va être un plus pour que l'enfant, bien évidemment, comprenne que là, son papa, sa maman est en train de créer un conte pour lui. Et finalement, c'est là où c'est magique, parce que ça va marcher encore mieux que de s'appuyer sur les contes que j'ai déjà imaginés et écrits.
Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est quand même, ça permet une participation. Vous me parlez de fil conducteur, le lieu, le héros, les idées, le problème du héros, la découverte d'un guide toujours, la découverte d'une ressource, la solution. Voilà, et vous adaptez la durée de votre conte, voilà, et parlez au présent de l'indicatif. Beaucoup de petites annotations qui sont importantes parce que vous y avez pensé et que les parents n'y pensent pas toujours. Voilà, alors il y a une page blanche, notez ici vos expériences et ressentis. Et les effets de votre histoire, est-ce que ça fait du bien aux parents?
Ça fait du bien aux parents, ça les rassure et finalement ils se disent que ils ont, et surtout quand l'histoire a fait du bien à l'enfant, c'est encore plus gratifiant pour le parent qui aura envie à nouveau de construire des contes et de prendre un moment privilégié avec son enfant. Je crois que ça c'est autant important pour l'enfant que pour le parent et ça remet du lien, ça remet du sens dans la relation parent-enfant.
Oui. C'est qui est très important. Oui. En tout cas, un grand merci Claire Bourouillou. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage qui est fait de textes, mais également de dessins, de contes, mais également de conseils, qui s'intitule « Contes Contes pour dormir, qui est élu un ouvrage illustré par Delphine Balme et édité par First Edition. En tout cas, un grand merci et on attend une suite.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.